Je reprends ce que Jean-Marc disait. On a chanté « Tu es le roi ». Il me disait, mais pff, on peut bien le chanter, c'est des mots, mais qu'est-ce qu'on a? Et j'ai pensé, il y a un moment bientôt où ce sera une évidence. On le verra vraiment comme il est. On dira, mais nos mots, ils ont été mais tellement, tellement, tellement inférieurs à la réalité. Mais ça viendra. D'ailleurs, mon thème ce matin, ça s'appelle « Refléter Dieu ». Malheureusement, Yann est malade, je me réjouissais de l'entendre, et puis ben, il était pas, il pouvait pas donner le message ce matin, j'ai dû prendre ça. Et en fait, je vais vous partager plutôt quelques pensées. Ces derniers temps, ces derniers mois même, je me suis concentré sur le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jean 17, c'est la prière que Jésus fait à son Père à la fin de son ministère, juste avant d'aller à la croix. J'ai passé moi, bien 2-3 mois à étudier ça, à voir ça dans tous les sens. C'est juste un ensemble de réflexions que j'ai envie de vous communiquer ce matin. Je vais juste lire le début de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, le seul unique Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je vais pas lire plus loin. Quand on lit ce passage, il est très familier et c'est des grands mots. On a un peu des fois de la peine à saisir ce que ça veut dire. Un peu comme quand on parle du roi, ça nous dépasse tellement. Ce que je veux relever dans ce passage, c'est Jésus dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Donc, il se place après et il réfléchit, en fait, devant son Père à qu'est-ce qu'il a fait. Quelle est l'œuvre qu'il a fait? Comment je l'ai fait? Pourquoi il réfléchit à ça? Ben parce qu'un peu plus loin, il va commencer à prier pour les disciples et il dit au verset 15, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ben, il peut bien prier Jésus parce que ce que lui a fait, ben c'est aux disciples, puis à nous de le continuer. Ben lui, il est le Fils de Dieu, il est même incarné, il reste uni à Dieu, et l'œuvre qu'il a accomplie, bon, elle nous est dans un certain sens aujourd'hui confiée. La mission de Jésus, que Dieu, son Père lui avait confié, eh bien, il nous la confie maintenant. Et c'est quoi cette mission? Ça m'a frappé en lisant ces versets. On a tendance à penser tout de suite à la croix. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour sauver. Eh bien, quand Jésus se place devant son Père, toutes ces choses sont bien entendu vraies, il y a encore bien d'autres aspects, mais quand Jésus, à la fin de son travail, se place devant son Père, comment il résume ce qu'il a fait? Jean 17, verset. Lire les bons versets. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Communiquer la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu unique, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un peu plus loin, au verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Faire connaître Dieu. Finalement, la vie éternelle, le salut, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Le centre de ce que Jésus a fait, c'est de révéler qui est le Père et celui qui l'a envoyé. C'est vrai dans tout l'évangile. Par exemple, dans Jean 1, verset 18, comment cet évangile commence ? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ou Jean 14 aussi, quand Jésus dit à Jacques, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Le cœur de ce que Jésus est venu faire, c'est de montrer, de révéler qui est Dieu. En étant dans ce monde, lui, une image parfaite de Dieu, le reflet de Dieu, uni au lui. C'est le cœur de sa mission, le cœur de ce que Jésus a voulu faire, c'est de nous faire, de faire que les hommes connaissent le Père. Et pas seulement connaissent le Père, vous avez remarqué, ils te connaissent l'unique vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est une chose de connaître Dieu, de voir Dieu. Les Juifs connaissaient Dieu, mais vous vous rendez compte ce que c'était pour les Juifs ? Le Dieu unique, c'était vraiment leur message central, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Dieu unique, mais on a le Père et le Fils. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point c'était une révolution dans la pensée. C'était ce qui était le cœur de la religion des Juifs, tout à coup, dans un certain sens, est remis en question. Il y a le Père et il y a le Fils. C'est vrai pour nous aussi. Hein. Parler de Dieu, c'est encore faisable. Les gens sont assez prêts à reconnaître Dieu, un Dieu, même un peu imaginaire, mais même peut-être assez vrai. Et Jésus-Christ, ça c'est difficile. Faire connaître Dieu. C'est la mission de Jésus et notre mission, puisqu'on poursuit la mission de Jésus, c'est de faire connaître Dieu. Comment le faire ? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des mots un peu ronflants, je dirais, là, glorifiés, etc. On lit ça, on se dit, ça, c'est des beaux textes. Donc, j'ai pas envie d'être trop, de rester dans de rester dans l'azur, de planer. J'aimerais devenir un peu plus concret, mais on ne peut pas devenir plus concret tout de suite. Il y a un petit passage à faire. Parce que, je viens de vous le dire, il y a le Dieu unique, il y a le Père, le Fils. Comment comprendre ça ? Et c'est important de le comprendre, parce que c'est au cœur de ce qu'on a à transmettre. Vraiment, Jésus insiste tout au long de cet évangile en particulier sur le fait qu'il est un avec le Père, qu'il est Dieu, et il le dit plusieurs fois, et puis le fait que, entre guillemets, il n'est pas Dieu. Il y a des choses qu'il ne sait pas, il est soumis. Il y a quelque chose qui est extrêmement bizarre pour nous. Comment peut être Dieu, un Dieu unique, et puis deux personnes ? C'est quelque chose qui nous dépasse. Et vous savez pourquoi c'est quelque chose qui nous dépasse ? C'est pas parce que simplement Dieu est plus grand que nous, tellement grand, comment des petites créatures peuvent comprendre Dieu ? C'est plus grave que ça. C'est le résultat de la chute. Avant la chute, entre Adam et Ève, j'ai l'impression qu'il y avait une compréhension de Dieu, une compréhension de l'unité déjà entre Adam et Ève, qui fait qu'on comprenait, on pouvait savoir ce que c'était d'être un et d'être multiple. Maintenant, c'est devenu, avec la chute, impossible. La chute, elle a cassé cela, elle a cassé les relations. La chute a cassé la relation entre nous et Dieu, et là, on le voit dans Genèse 3, casser la relation entre Adam et Ève. Tout à coup, on est des individus, on a voulu décider nous-mêmes ce qui est bien et c'est mal, on veut comprendre, on veut être comme Dieu, et on est seul tout à coup. Donc, comprendre quelque chose comme cette espèce de dualité entre un Dieu unique et deux personnes, ça nous est inaccessible à cause du péché. C'est vraiment On ne mesure pas assez l'importance et la gravité du péché. Ça a cassé quelque chose d'essentiel. On est devenu isolé. Alors comment comprendre? On ne va pas comprendre. Mais ce qui m'a frappé en lisant ces passages, c'est qu'il insiste sur l'unité du Père et du Fils, mais il montre aussi la distinction. C'est des personnes distinctes. Si le Père et le Fils étaient exactement la même chose, s'ils étaient identiques, si leurs pensées étaient les mêmes, si leur rôle était les mêmes, ben, ce serait finalement une personne. La distinction des personnes, ça veut dire qu'il y a une différence. Et quelle est cette différence? Et si on lit ce passage, c'est frappant, et on peut lire d'ailleurs d'autres passages, ce qui différencie le Père et le Fils, c'est que le Père donne et que le Fils exécute. Le Père donne. Dans ces passages, il confie une mission. Il donne une mission à Jésus. C'est lui qui la donne. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Bon, écoutez, je ne vais pas insister, je ne les retrouve pas facilement comme ça. Mais plusieurs fois, on voit, Jésus le dit, il est envoyé du Père. Il a reçu une mission de la part du Père. Le Père lui donne la mission et lui la fait. Mais le Père, il ne lui donne pas seulement une mission, il lui donne les ressources pour l'accomplir. Par exemple, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Dieu le Père a donné du pouvoir à Dieu le Fils. Un peu plus loin, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il y en a d'autres plus loin aussi. Dieu, le Père, donne à Dieu, le Fils, les choses pour qu'il puisse accomplir son travail. Donc, le Père confie des missions, le Père confie et donne des ressources, et le Fils, lui, il reçoit cette mission, il accomplit cette mission, il fait ce que le Père lui dit de faire avec l'équipement que Dieu lui a donné. Il est au cœur de l'action. C'est pour ça que je vous disais, le Père donne, le Fils exécute. C'est Jésus qui est au cœur de l'action. Ce n'est pas que le Père fasse rien. Hein. Il dit, Jésus, je travaille et mon Père travaille. Mais au cœur de ce qu'il se passe dans cet univers, c'est le travail, l'action du Fils. Le Père donne, le Fils exécute. Il y a donc une asymétrie. Je ne sais pas si j'arrive à vous le faire sentir. Ces deux personnes qui sont une, mais un donne et source et l'autre fait. Ça veut dire que le Père donne et que le Fils, pour faire, qu'est-ce qu'il est? Il dépend. Jésus dépend de son Père. Ils sont égaux dans la Déité, il est Dieu, double, mais il est Dieu. Mais il y a une personne qui donne et l'autre qui dépend, qui reçoit. Jésus le dit souvent, par exemple en Jean 5, 19, le Fils, et il dit le Fils, il ne dit pas Jésus sur terre, c'est plus profond, c'est le Fils éternel, le Fils fondamentalement ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté mais à celle du Père qui m'a envoyé. Jean 8, verset 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il y a une asymétrie. Il y en a un qui donne et un qui dépend. Tout ceci, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça fait pour nous? Quel est l'impact? Quelle est notre part là-dedans? Je voulais dire, la mission de Jésus, c'est de révéler, c'est de montrer dans le monde qui est Dieu. Cette mission, elle nous est confiée. Comment on va entrer dans cette mission? Eh bien, on va entrer dans cette mission de la même manière que Jésus entre dans la sienne. La même manière. Dieu donne, le Fils, le Père donne, le Fils exécute. Et on entre dans la même mécanique, si j'ose dire. La relation entre Jésus et l'Église, elle est similaire, de même nature que la relation entre le Père et le Fils. Il y a un verset de 1 Corinthiens 13 qui dit « Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Dieu est le chef de Christ, c'est-à-dire Dieu donne et le Christ reçoit, exécute. Le Christ, il est le chef de l'Église. Le Christ donne et l'Église fait. Le mari est le chef de la femme. Vous voyez, trois niveaux. On retrouve ça dans Éphésiens 5 et c'est là qu'on va aller maintenant. Je voulais dire, je voulais être concret, donc on va aller. Éphésiens 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voyez de nouveau cette chose-là, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, etc. Vous connaissez ce passage peut-être plus que d'autres, parce qu'on n'aime pas beaucoup ce genre de choses des fois. Mais voyez, la même manière dont le Père et le Fils sont en relation, et la manière dont le Fils et l'Église sont en relation, et dans ces passages, Paul il fait le parallèle entre ça avec le mariage. Et puis pas seulement le mariage, hein. Ici il parle du rôle de la femme et du mari. Ensuite, au chapitre 6, il va parler des enfants. Au chapitre 7, il va parler, on peut dire, des patrons et des esclaves, des patrons et des employés. C'est toujours des relations qui sont constituées, décrites comme asymétriques. L'un est le chef de l'autre, pour prendre ces expressions. Pourquoi ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a cette asymétrie dans Dieu lui-même, entre le Père et le Fils, et c'est cette différence qui fait finalement bouger les choses. Et c'est parce que le Père et le Fils ne sont pas identiques qu'il y a mouvement. C'est parce que le Père donne et que le Fils exécute que la vie existe finalement, que le mouvement existe, que le changement existe. Si Dieu était un, ben, il se plairait en lui-même, je ne sais pas comment dire ça, mais il n'y aurait pas cette dynamique. Il y a une dynamique de vie, de changement qui est liée à la nature même de Dieu, avec cette double dimension. Et cette dimension de vie, elle est la même pour nous. Si on est dans ce monde et si on veut que les choses bougent, si les choses grandissent, si les choses changent, eh bien, une obligation, une chose centrale, c'est que les relations sont asymétriques. On n'aime pas beaucoup ça. C'est très... L'idée même de ce décalage, il est très désagréable pour nous. Je pense qu'il a été désagréable dans toute l'histoire, mais on vit une période où c'est encore plus critique. De tout temps, la lignée d'autorité a été quand même très centrale. On en a abusé, mais elle a été centrale. On vit, nous, une période où l'autorité, où je dirais même plus, la réalisation d'une différence, ça nous sonne profondément faux. Ça nous, je dirais, à la limite, faire des différences entre les gens, ça nous semble un péché. Et cependant, c'est cette différence qui fait fonctionner le monde. Et la chute, en cassant la relation, en cassant cette chose-là, elle a cassé quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est un travail de l'ennemi de vraiment de vouloir détruire, changer cette idée d'asymétrie. Dans le passé, il l'a beaucoup changé en faisant qu'on abuse de cette asymétrie. Je trouve aujourd'hui, il est en train de travailler en nous faisant nier, refuser cette asymétrie. Au lieu de, dans toute l'histoire, apprendre à vivre cette asymétrie pour qu'elle soit porteuse de vie. Et pour en revenir à mon sujet, refléter Dieu, Jésus a reflété Dieu en vivant de cette manière-là, en vivant cette asymétrie. Et je crois que notre rôle, notre manière de présenter Dieu, de le réhabiliter, c'est de vivre bien cette asymétrie. C'est pour ça que dans ces passages, on est des fois un peu surpris. Chapitre 5 des Éphésiens, il commence « Soyez les imitateurs de Dieu ». Et puis ensuite, il va parler du mariage, il va parler des enfants. Mais parce que c'est là qu'on peut imiter Dieu. C'est dans ces choses concrètes que la nature même de Dieu, le fonctionnement de Dieu, lié à cette asymétrie, puisque j'ai employé ce terme, mais à cette relation qui n'est pas une relation d'égalité, mais une relation où un donne et l'autre fait. C'est ça. Et on ne reflétera, on n'honorera pas à Dieu si on ne respecte pas et si on n'entre pas dans ces exhortations qui travaillent sur cette différence. Et je trouve, franchement, l'ennemi a remporté des grandes victoires dans notre culture en diminuant beaucoup, à nos yeux, la valeur de ces différences. On vit au milieu d'un gros mensonge, et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement, parce que je crois que c'est vraiment une des choses où Dieu n'est plus connu, parce qu'on voit plus ceci. Dans toutes les relations, donc, il y a une position, je ne sais pas comment on peut dire, en haut et en bas. Dieu, il est le Père qui, je l'ai dit, donne, et Jésus, il est l'exécutant qui reçoit. Dans le mariage, c'est la même chose. On peut prendre, je ne vais pas entrer, j'ai pas eu des réflexions bien profondes, je vous dirais, sur ce sujet. Le mari, il a le rôle du Père vis-à-vis du Fils. Qu'est-ce qui fait le père? Qu'est-ce que fait le mari? Sa responsabilité est de donner des responsabilités à l'épouse. Le Christ, il reçoit des responsabilités, des missions de la part de son père. Et la mission d'une femme, ce n'est pas de faire le ménage. Le mari ne donne pas des ordres pour ça. La mission que le père confie à Christ, c'est une mission centrale. C'est même, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement Christ qui travaille, qui fait l'œuvre. Ça veut dire, messieurs, que peut-être en bonne partie, c'est mesdames qui font. En tout cas, c'est l'état d'esprit, je crois, qu'il faut avoir. Parce que c'est l'état d'esprit du Père vis-à-vis du Fils. Il délègue les choses. Il ne donne pas des ordres, il lui confie une mission. Et puis l'autre chose qui est plus centrale dans ce passage aussi, c'est que non seulement le Père donne des missions au Fils, mais il lui donne la manière, les ressources pour accomplir sa tâche, sa mission. Marie, notre rôle, c'est d'équiper, de donner, de fournir à nos épouses ce dont elles ont besoin pour accomplir la mission que Dieu leur confie au travers de nous, en accord avec nous. Vous voyez, c'est... D'ailleurs, le passage le dit lui-même. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Il y a cette dimension-là, mais c'est la dimension réelle de fournir à l'épouse les ressources dont elle a besoin. Ça fait partie de cette asymétrie. Et puis l'épouse, à la place de Christ, qu'est-ce que Christ fait? Christ, il est au cœur de l'action. Comme mesdames, vous êtes au cœur de l'action, vraiment, et de l'action importante, pas juste marginale. Vous êtes au cœur de l'action, mais cette action-là de Christ, elle est quoi? Quelle est l'action qu'a, que fait Jésus? Il révèle le Père. Je ne dis pas, mesdames, vous devez révéler votre mari, c'est pas ça. Mais il révèle le Père, pourquoi? Pour que d'autres le connaissent. Ça va vers l'extérieur, ça va vers l'extension. Le travail de Jésus, il honore Dieu, mais il l'honore en appelant, en étendant. Je crois que le rôle d'une femme, elle est aussi pas de servir son mari, elle est d'étendre le royaume, d'étendre, d'aller vers l'extérieur, l'intérieur, mais de grandir, de développer. Comme Jésus a fait pour les autres, allant vers les autres, révélant, travaillant, aimant, eh bien c'est le rôle aussi, mesdames, que vous avez. Et puis la manière de le faire, je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est vraiment central, Jésus, le Fils, dépend du Père. Dans ce passage, il est dit, « Femme, soyez soumise à mon mari. » Peut-être que ce serait plus acceptable si on disait, « Femme, soyez dépendante de vos maris. » Et je pense que ça exprime bien, peut-être mieux la chose. Comme Jésus dépend de son Père, la femme dépend de son mari. Mais pourquoi il est dit soumission? Parce que c'est, qu'est-ce que c'est la soumission? C'est une dépendance choisie. Dépendre, ça peut, un enfant, il dépend de ses parents. Une femme, elle ne dépend pas dans ce sens-là de son mari, mais elle choisit cette dépendance. Elle, c'est volontaire. Comme Christ, il choisit de faire la volonté de Dieu. Il est libre aussi. Vous voyez cette dimension? Et je trouve, alors, ce n'est pas très pratique peut-être, mais ça donne quand même une idée dans le fonctionnement du couple, du rôle assez central finalement de la femme, du rôle finalement aidant du mari. On dit la femme c'est l'aide, oui c'est juste, mais dans un sens, Dieu il donne ce qu'il faut au fils, le mari donne ce qu'il faut pour que la femme puisse accomplir son œuvre. Elle est dépendante, elle choisit. Mais ça veut dire quoi être dépendant? Ça veut dire aussi qu'on fait avec. On est conscient qu'il y a besoin du mari. Et on recherche le mari. Et on communique avec. On est. Oui, je veux dire, il y a une. Comme Jésus n'arrête pas dans toute sa vie, en faisant ce que le Père veut, de chercher le Père, d'aller vers le Père, de passer du temps avec le Père, de prier avec le Père, bien, je crois que. Une femme a cette responsabilité, le mari a la responsabilité de passer du temps, d'être avec. Je dépends de mon mari, eh bien je vais lui demander, je viens lui dire, je vais faire avec. Et c'est ce mouvement-là qui crée finalement l'unité. On est un, mais avec des rôles différents. Je suis conscient que c'est des mots, que ça reste un peu théorique, mais j'aimerais quand même nous faire ressentir cette dynamique qui existe dans le couple. Elle est vraie d'ailleurs pour tout, pour les parents aussi. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ou les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des ressources aux enfants pour que les enfants grandissent, pour qu'ils changent. Mais ils donnent des ressources, pas seulement pour purement le bien de l'enfant, mais pour que l'enfant puisse être utile plus tard, pour qu'il se développe, pour que l'enfant il soit pas fermé sur lui-même, mais il soit ouvert vers l'extérieur. Comme Jésus a un ministère qui ouvre pour le père, l'éducation, l'encouragement, ce qu'on fait pour donner aux enfants, c'est pas juste pour eux, c'est pour que les vies de ces enfants soient fructueuses. Vous voyez cette dimension-là. Donc, l'adulte, il ne va pas s'occuper de ses enfants pour recevoir en retour l'amour des enfants, mais il va s'occuper de ses enfants pour que ses enfants se développent, aillent vers au-delà. Et l'enfant, il dépend des parents. Je vous l'ai dit tout de suite, il dépend obligatoirement dans un certain sens. Mais c'est foncièrement important. Parce que apprendre la dépendance vis-à-vis de ses parents, c'est apprendre quelque chose qui est fondamental pour notre existence. Parce qu'on est des êtres dépendants. Et on n'est pas seul, on n'est pas justement indépendant, comme la chute nous l'a proclamé. Et si on apprend comme enfant cette dépendance, et c'est la responsabilité des enfants et des parents, mais c'est un gain infini pour une vie qui ait du sens. Vouloir croire qu'on est indépendant, c'est finalement le péché fondamental. Et c'est vrai dans des autres relations. J'ai pensé aux relations de travail. Un chef, il n'est pas là simplement pour donner des ordres. Oui, il donne des missions. Mais il est là pour donner les ressources pour le faire. Comme responsable quelque part, ma responsabilité, ce n'est pas simplement de m'assurer que les choses avancent, mais c'est d'aider. Vous voyez, Dieu, il travaille avec son fils. Il lui donne des choses. Et bien, comme dans la dynamique entre un chef et ses employés, ben le chef a une responsabilité de fournir les moyens, de donner. Les employés ne sont pas là pour le servir, ils sont là pour servir plus loin, et lui, il est responsable de donner ce qu'il faut pour que les employés puissent faire leur service. Vous voyez ce mouvement de nouveau. Et puis les employés sont responsables d'être dépendants. Et ça, ce n'est pas facile. Moi, j'ai plutôt été dans une... Bon, on est toujours dans des cascades hiérarchiques, mais je n'étais pas dans la direction générale, j'étais plutôt dans les exécutants, contre-maîtres. Mais c'est fou ce qu'il est difficile, à quel niveau qu'on se situe, de penser qu'on n'est pas plus important que ses chefs, de penser que ses chefs font vraiment quelque chose et qu'on n'est pas nous tout seuls. Et on a beaucoup de peine à accepter cette dépendance. Même chose dans l'Église. Il y a des ministères qui sont là pour servir l'Église. Éphésiens 4 dit qu'il a donné les uns comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Dans l'Église, il y a asymétrie. Il y en a qui sont à la tête, il y en a qui enseignent. Mais pourquoi? Comment? Pour que les autres puissent servir. De nouveau, c'est cette idée, non pas de nourrir l'ego de ceux auxquels on parle, mais de les mettre en route, de leur faire entrer dans un service. Et puis pour ceux qui écoutent, eh ben, y a la dépendance d'écouter, d'entendre, de recevoir avec reconnaissance. Et ce n'est pas si évident. C'est tellement plus facile de critiquer que de recevoir avec reconnaissance, etc., etc. Je pourrais reprendre encore d'autres relations, que ce soit dans la politique ou autre. Mais j'aimerais simplement qu'on soit bien conscient que dans tout ce que l'on vit, toute relation, il y a cette asymétrie. On est toujours soit dépendant, soit donnant, mais c'est fondamental de vivre cela dans l'unité ou dans de tout faire pour que ce fonctionnement marche bien. Parce que c'est un vrai problème. Entre le Père et le Fils, il n'y a pas de problème. Ils sont parfaits, ils sont un. Et malheureusement, à cause de la chute, on n'est pas un. Et tout ceci est souvent très, très problématique. Mon chef, il va peut-être me demander des choses, des bêtises. Mon mari ou ma femme va... C'est loin d'être parfait. On en est tous conscients. Alors comment faire, ou comment voir... Faire, c'est trop précis, mais comment voir les choses dans un monde imparfait? Comment tout ce que je viens de dire se réalise alors que beaucoup de choses ne marchent pas? Ben d'abord, le Père est la tête du Fils, qui est la tête de l'Église, qui est la tête du mari, qui est la tête... Vous voyez, il y a cette cascade. On n'est pas tout en haut, on est au milieu de ceci. Et il y a un verset très important, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plein de choses fausses. Mais on a un ancrage et on a Dieu. Et davantage. Et ça, on revient à Jean 17. Parce que Jésus, qui sait cela, qui sait que tout ceci est difficile, bien, il prie le Père. Il demande au Père de tenir compte. Moi, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Je ne demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. On est dans cette situation difficile. Alors Jésus prie le Père pour gérer cette situation difficile. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le Père répond aux prières du Fils. Donc une chose est certaine, les choses que Jésus demande dans ce passage, elles existent et elles sont réalistes. Alors j'en ai retenu trois. Père Saint, non, je lis juste un peu plus tôt. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les. Un peu plus loin, je ne te prie pas des autres et du monde, mais de les préserver du mal. La première chose que Dieu fait, que le Père même du haut du ciel fait, eh bien, il nous garde. Il nous... Quelle était l'autre expression ? Il nous préserve, il nous garde. On est dans un monde qui est cassé, mais s'il n'y avait pas cette réalité de ce que Dieu agit, eh bien, on ne tiendrait jamais debout. Ce serait impossible de faire les choses que je dis, d'entrer dans cette dynamique où cette asymétrie est bien gérée. Mais, le Père s'en occupe. Mais, Dieu... C'est difficile de continuer à faire que tu as ces bruits. Mais, oui, on a derrière nous, dans toute cette chose, quelqu'un qui s'en occupe. La deuxième prière de Jésus au Père, je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Une autre chose que Dieu fait, il veut nous sanctifier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce chemin où on est, dans ces relations difficiles, eh bien, c'est un chemin de progrès. Sanctifier, c'est grandir. Cette chose-là que je mentionne, ces façons d'avoir des relations qui reflètent les relations de Dieu, eh bien, Dieu s'en occupe qu'on grandisse. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Et c'est normal de n'être pas arrivé. Ce n'est que dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres que ce sera parfait. Mais on est en chemin, et ce chemin est central. Il est extrêmement important pour Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit d'un seul coup, il y a un chemin à parcourir. Et il le fait. Je vous sanctifie. Il répond à la prière de Jésus, et on va progresser. Et on ne progresse pas parce que simplement on est bon, on progresse parce que Dieu nous fait progresser. On dépend de lui aussi. Puis la dernière prière de Jésus, par exemple, ce n'est pas pour eux, les disciples seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Foncièrement, fondamentalement, ce que Dieu fait, il essaye de nous unir à lui. On participe finalement d'une manière toujours croissante et réelle avec le fonctionnement de la Trinité. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce fonctionnement juste, asymétrique, parce que ça fait partie de la nature de Dieu et on est lié à Dieu. Dieu nous unit à tout cela et veut nous unir les uns aux autres. Parce que ce que je dis sur cette asymétrie n'est possible que si on est un, que si on est d'accord, que s'il n'y a pas conflit finalement. Donc, être un est central pour réaliser ça. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu cherche à unir. Jésus prie pour que le Père unisse. Et quand on va dans le sens de l'unité, on est, comment dire, dans le courant de ce que Dieu fait. Et s'il n'y a pas ce courant d'unité, ce progrès dans l'unité, il n'y aura pas ce progrès dans un fonctionnement asymétrique, bien vécu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Moi, je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, parce que c'est vraiment, c'est que le fait de cette asymétrie, c'est fondamental. C'est fondamental en Dieu, c'est fondamental dans nos vies. C'est une bonne chose. Et ce qui nous fait réagir négativement vis-à-vis de cette idée d'un peu de hiérarchie, eh bien, c'est le péché, c'est la chute. Non, rien ne peut se passer sans cette notion cette asymétrie, ce fait qu'il y en a qui donnent et d'autres qui dépendent. Et finalement, notre combat contre l'ennemi, il dépend beaucoup de ça. Je crois que je vous le disais tout à l'heure, mais Satan a remporté une grande victoire en créant dans notre période une mentalité d'indépendance, une mentalité égalitaire. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et j'aimerais aussi qu'on retienne ça, parce qu'on le croit profondément au fond de nous. Ça fait partie de notre culture. Bien, il faut y être attentif. Et puis le dernier point, nos relations, que ce soit les relations de couple, les relations de famille, les relations de travail, c'est le cœur de ce que Dieu nous demande pour refléter qui il est. Ne mettons pas ça comme secondaire et n'ayant qu'une vision très spirituelle finalement de la relation avec Dieu. Non, pour que le monde croie que Dieu est Dieu et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, ça passe par quelque chose qui reflète la nature profonde de Dieu. On a de la peine à l'imaginer, mais c'est une réalité. C'est chaque fois qu'on apprend et qu'on vit correctement nos relations à tous ces niveaux, chaque fois qu'il y a ce respect de cette asymétrie, que finalement, pour le monde, il voit quelque chose de Dieu. Ce n'est pas des mots, même si les mots sont importants, mais c'est une attitude. Est-ce que j'accepte, est-ce que j'ai cette attitude? Ma prière, Seigneur, pour terminer, c'est viens à notre secours. Seigneur, ôte le voile de mensonge qui est souvent chez nous et aide-nous à investir, à être conscient, Seigneur, de l'importance vitale de nos relations, de l'importance vitale de les vivre comme tu veux. Seigneur, on a besoin de ton secours et tu nous l'as promis. Alors on veut le recevoir et s'y attendre. Mais Seigneur, que ta lumière brille pour que, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes employés ou mon patron, en fait, naturellement, parce que je t'appartiens, parce que tu travailles, je puisse te refléter avec fidélité. Seigneur, on a chanté un chant sur la simplicité de cœur. C'est vrai qu'on puisse être simple, vraiment, Seigneur, et puis te refléter comme Christ t'a montré dans ce monde par cette attitude, qu'on puisse te montrer dans ce monde par ces simples attitudes, Seigneur. Viens à notre secours. Amen.